Parmi toutes les erreurs que j'ai faites cette année, je ne vous en ferai pas la liste, on n'a pas le temps ce matin. Je ne sais pas quelle est la proportion du nombre d'erreurs par rapport au nombre de choses qu'on fait. Enfin, peu importe. Dans toutes les erreurs que j'ai faites ce matin, il y en a au moins une que j'ai faite encore, j'allais dire, parce que j'avais déjà faite avant. C'est ça qui est énervant avec nos erreurs, c'est qu'on les répète, ça recommence. C'est avec les fiancés lors des réunions de préparation au mariage. J'ai encore fait l'erreur de leur parler d'engagement. J'avais déjà encore fait l'erreur de leur parler de sacrifice, au pluriel, c'était à propos des enfants. Ça ne passe pas, ce sont des termes que Jésus n'emploie pas. Jésus ne parle pas ni d'engagement, ni de sacrifice. Ce sont des grands mots, une notion des concepts, des grands mots qu'il faut probablement éviter, comme les gros mots. Pour des raisons différentes, mais ce sont des mots qui dérangent, qui encombrent inutilement. Et c'est ce que je me suis dit. Je me dis, il faut que j'y travaille, que je change de vocabulaire, de façon de faire, d'approche. Essayons. La vie est un tableau. La vie est un tableau. Et chaque matin, au lever, à peu près la même façon qu'on regarde par la fenêtre le temps qu'il fait pour voir à peu près comment on va s'habiller. Chaque matin, je regarde Dieu pour voir comment je vais construire ma journée, comment je vais m'organiser, me comporter. La vie est un tableau, je veux dire par là, qu'est-ce qui est au centre de ce tableau? Qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qui est au centre? Et chaque matin, je regarde le Christ sur la croix, ou, dans ma chambre, une grande icône au milieu du mur. La vie est un tableau. Est-ce que je mets le Christ au centre de ce tableau, c'est-à-dire au centre de ma vie, ou est-ce que je me représente moi? Est-ce que je me mets moi au centre? Si je suis moi au centre du tableau de ma vie, alors je place les autres un peu tout autour, un peu relégué, un peu saupoudré. Et puis, par la force des choses, souvent de plus en plus petits quand ils sont encore là. Sans compter le fait que, si je suis moi au centre de ma vie, tout le poids du monde repose sur mes épaules. Chaque jour, en contemplant le Christ, je contemple l'amour de Dieu. Je contemple l'amour de Dieu et je lui laisse porter le poids du monde, de nos souffrances, de nos péchés. Je lui demande son aide, ce que nous appelons très exactement sa grâce, son aide, pour en prendre ma part, mais ma part seulement, dans la limite de mes propres capacités. Je pose chaque jour cet acte de foi, que Dieu ne nous charge pas au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Saint Paul le dit dans la première lettre aux Corinthiens, « Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, avec les épreuves, avec tout ce qui nous arrive, il donne le moyen d'en sortir et la force de le supporter. » Et cette grâce, cette aide, nous est donnée en particulier, c'est la raison de notre présence ce matin à la messe, nous est donnée dans les sacrements de l'Église. Et c'est pourquoi nous ne manquerons jamais de prêtres, jamais. C'est la folie de ceux qui pensent et même qui voudraient s'organiser en fonction de leur éventuelle disparition. Mais quelle folie! Après sa résurrection, Jésus a corrigé très sévèrement ses disciples. Il leur a reproché leur manque de foi, la dureté de leur cœur. Manque de foi et dureté du cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils avaient contemplés ressuscités. En mettant Dieu, le Christ Jésus, au centre de ma vie, j'accepte de me décentrer moi-même, de ne pas être le centre du monde, ni même le centre de ma vie, quand bien même j'en serais évidemment l'observateur de référence. Frères, nous l'avons entendu dans la deuxième lecture de la part de saint Paul, frères, que la liberté que donne le Christ, que notre liberté, ne soit pas un prétexte pour notre égoïsme. Au contraire, mettons-nous par amour au service les uns des autres. Est-ce que dans les temps passés, hommes et femmes avaient moins peur de s'engager? Ils ne se posaient pas la question. La vie était un combat. La vie était autrement plus dure. Et on le voit dans l'évangile de ce dimanche quand les disciples Jacques et Jean veulent partir en guerre. D'où d'ailleurs le nom que Jésus leur a donné, qu'on trouve dans l'évangile de saint Marc, de fils du tonnerre, Boanerges. Ils veulent partir en guerre, mais ils se trompent d'ennemis. Nos ennemis ne sont pas ceux qui ne nous accueillent pas. Nos ennemis ne sont pas ceux qui ne nous aiment pas. Et non seulement ils se trompent d'ennemis, mais ils se trompent en voulant invoquer le feu du ciel, pensant probablement faire comme le prophète Élie. C'est ce qu'il a fait avec les faux prêtres de Baal, oubliant d'ailleurs qu'il l'a regretté ensuite amèrement. Mes amis, il est tout à fait possible, et moi je crois même probable, qu'un feu viendra du ciel. Mais notre modèle à nous, c'est Abraham qui a supplié Dieu pour que ce feu ne s'abatte pas. Notre modèle, c'est Abraham qui a supplié Dieu pour le monde, qui a supplié le Seigneur. Est-ce que tu vas vraiment faire périr le juste avec les coupables? Peut-être qu'il y a 50 justes dans la ville. Puis ensuite, il s'est réveillé. Peut-être 45, 30, un modèle de négociation avec le Seigneur. Peut-être 20. Allez, si on en trouve 10. On peut se tromper sur ce feu du ciel. On peut se tromper, et on se trompe très souvent, sur la justice divine. Mais on peut aussi se tromper sur le feu qui doit nous réchauffer, qui nous fait vivre. Se tromper à l'image de Pierre, l'apôtre Pierre, au moment de l'arrestation de Jésus dans la cour du grand prêtre, quand il est allé se réchauffer avec les gardes et les serviteurs. C'est une scène, aujourd'hui on dirait, c'est une scène typiquement iconique, disait avant, emblématique de la fausse chaleur. La fausse chaleur, le faux confort qui amène forcément tôt ou tard au reniement. Ni le feu du ciel, ni le feu contre le froid. Le feu auquel nous croyons, c'est le feu de l'esprit qui est l'âme de notre vie. Et c'est l'histoire d'Élie et du prophète Élisée. Appelé par Élie, le prophète Élisée l'a vu ensuite s'élever au ciel dans un char de feu avec son cri phénoménal. « mon père, char d'Israël et ses cavaliers, mon père !» Et il faut avoir ces souvenirs, toute cette histoire biblique, il faut l'avoir en tête, pour comprendre les réponses de Jésus dans les trois rencontres qui suivent dans l'Évangile, où beaucoup d'entre nous, nous pouvons nous reconnaître. Il y a d'abord ceux qui pensent trouver avec le Seigneur le repos en cette vie. Grande tentation. Penser qu'on va trouver avec le crucifié le repos en cette vie. Deuxième attitude de ceux qui sont là mais jamais prêts. C'est jamais le moment. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais vous savez, on s'en manque toujours. Toujours là, mais jamais prêt. Et puis, il y a ceux qui sont trop attachés au passé, ceux qui ne font que regarder derrière, trop attachés au passé pour aller de l'avant. Et Jésus corrigeait. Jésus corrige. Chaque fois, il recadre. Il recadre pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas moins que d'aller au ciel. Il ne s'agit pas moins que d'aller à la maison du Père. Mes amis, la vie est un tableau. Notre vie est un tableau. Et la question de notre vie, de tous les jours, pas seulement au soir de notre vie, c'est qui est-ce que j'aurais mis au centre ?